Oui, c'est le Canu Info du vendredi soir après la rentrée 2014. Il est 19h04, vous êtes bien sûr. Et oui, ça recommence, c'est Radio Canu, du coup ça tourne un peu en rond, mais c'est pas grave. C'est, ça tourne en rond parce que c'est le Canu Info anticarcéral. Voilà, il est 19h05, on commence. On va parler d'abord de Bilbao avec des manifestations de Basques. Ensuite, on partira directement dans le vif du sujet sur les prisons. En parlant de l'administration pénitentiaire qui a été punie à verser une amende suite à le suicide de Jean. Du coup, il doit payer une amende à la famille. Ensuite, on parlera d'une grève de la faim en Iran, des baumettes. Et oui, les baumettes, on en avait entendu parler justement il y a un an. Ils devaient retaper cette prison qui était insalubre, digne de la prison Saint-Paul à Lyon, à Perrache. Et voilà, on verra les suites de cette réhabilitation. On continuera par les mutineries de Châteaudun. Et puis, on partira aux États-Unis, en Alabama, pour parler de révolte de prisonniers, il me semble. Et puis, nos traditionnels brèves de détention et d'évasion. S'il y a des prisonniers qui nous écoutent, cette semaine, nous n'avons pas de messages. Du coup, voilà, on espère que dans 15 jours, on aura de nouveau des messages. Et à la fin de l'émission, on redira du coup les contacts pour nous appeler, laisser des messages et pour nous écrire si vous avez des choses à raconter sur ce qui se passe en ce moment dans la prison. Du coup, on doit être entendu à Lyon-Corba, à l'EPM de Mézieux, au CRA de Saint-Exupéry et à la tôle de Saint-Quentin-Falavier qui est vers le péage en allant sur l'autoroute en allant en direction Grenoble. Voilà. Si en même temps vous partez en vacances, en week-end de ski, ben dommage, il n'y a pas de neige. Bon, allez, on commence directement.
Ok, du coup, on commence avec un petit point sur les Basques, parce qu'il y a eu cette semaine une opération policière au Pays Basque contre les avocats de l'ETA. C'est la Guardia Civile qui a lancé mercredi après-midi une opération du coup contre eux. Eux, c'est des avocats spécialisés dans la défense des prisonniers basques. Il y a eu plusieurs perquises qui seraient en cours, qui auraient été en cours. On ne sait pas trop s'ils continuent ou pas. Mais en tout cas, dans les cabinets des juristes qui étaient à Hernani ou à Bilbao. Il y a 8 personnes qui ont déjà été interpellées, selon l'agence de presse Europa Express. Il s'agirait de Arantza Zulueta, John Eparanta, Miren Aitzane, excusez-moi si je prononce n'importe comment, mais voilà. Bon, bref, Miren Aitzane, Orca. Ouais, bon, je suis vraiment désolée. Je vais passer les noms parce que j'y arrive pas et que ça va être vraiment trop ridicule. Donc voilà, et en même temps qu'il faisait ça, eh ben, le ministère, il a fait un petit couac, il a annoncé à l'avance qu'ils étaient en train de faire cette opération policière avant même de la lancer, et du coup, ça a permis à des personnes de s'en tirer peut-être un peu mieux, on sait pas, on verra. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça se passe en même temps que demain, il y a une grande manifestation qui est organisée à Bilbao pour le rapprochement des prisonniers basques. Parce qu'on le sait, les prisonniers basques, la stratégie de l'État espagnol, c'est de les envoyer dans plein de prisons ailleurs et le plus loin possible du Pays basque. Notamment, on en a à Corba et on les salue s'ils et elles nous écoutent. Voilà, voilà. Du coup, c'est à partir de 17h30 à Bilbao, cette grande manifestation. Et si vous n'avez rien prévu pour demain et que vous avez vraiment envie d'y aller, eh ben, vous pouvez y aller, ce sera super. Elle a été interdite, mais quand même, eh ben, elle va avoir lieu. Ça va être génial.
Et comme c'est le Canu Info anticarcéral, on va continuer avec les infos sur, plus précisément, les prisons à Lyon, mais surtout aussi en France et dans le monde. On commence par aller voir ce qui se passe dans le nord, à la prison de Maubeuge, si je ne m'abuse, près de Lille.
Tu ne t'abuses pas, du coup, en fait, le 29 octobre 2013, alors c'est un rendu un peu vieux qu'on a lu sur le site de l'OIP, le tribunal administratif de Lille a condamné l'État à verser 14 000 euros à la famille de Jean, du coup l'État et l'administration pénitentiaire. Si on en parle, c'est parce que c'est assez rare en fait que l'État reconnaisse qu'il y a un suicide et qu'il est impliqué là-dedans. Et à plusieurs reprises, on a parlé de la mort suspecte de Sofiane Mostefaoui en mars dernier et des nombreuses morts qu'il y a en ce moment à la tôle de Corba. Du coup, c'était assez intéressant de voir des sanctions disciplinaires, même si ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaiterait. C'est plutôt que les personnes ne meurent pas en tôle. Du coup, le tribunal administratif a retenu en fait que... que lorsque Jean avait été placé au quartier disciplinaire 3 jours plus tôt, il avait été donc sanctionné à 30 jours de cellule disciplinaire par rapport à un personnel de l'administration pénitentiaire. Et en fait, à plusieurs reprises, il a fait part de sa détresse et de son envie de se suicider au service médical. Et du coup, plusieurs médecins avaient attesté que sa santé faisait qu'il pouvait, n'allait pas supporter son maintien en quartier disciplinaire. Et comme souvent ça se passe, en fait, l'administration pénitentiaire n'a pas retenu... a pas pris en compte les signes de détresse de Jean, et du coup il s'est bel et bien suicidé, comme cela arrive malheureusement trop souvent. Du coup, le 23 mai 2008, il met fin à sa vie, et depuis l'État a été du coup condamné parce qu'il a été reconnu n'avoir pas avoir eu négligence vis-à-vis de ce détenu et avoir pas pris assez en compte son état psychologique, et du coup aurait dû suspendre l'exécution de la sanction afin de protéger la vie de ce détenu. Voilà, et du coup l'OIP dans son communiqué rappelle que le risque suicidaire est 7 fois plus encore important au quartier disciplinaire que dans le reste de la détention, qui du coup le banc public lui rappelle que tous les 3 jours une et un détenu se suicident dans les prisons de France. Et ça est, c'est l'occasion du coup de rappeler qu'est-ce qu'il faut faire et quelle est la campagne que mène le banc public depuis 2001 par rapport au fait que des détenus passent à l'acte et se suicident, ou alors que des matons transforment une mort en suicide. Du coup, le titre de leur article sur le site de banc public est assez clair, c'est « La peine de mort est-elle vraiment abolie en France ?» Et du coup, ils rappellent que tous les 3 jours, une et un détenu se suicident. Et ils font un comptage, en fait, chaque année, des nombres de personnes qui meurent, dont de manière... Du coup, ils font une distinction entre suicide et mort suspecte. Et en fait, ils se sont rendus compte, en fait, que l'administration pénitentiaire était un bloc muet qui voulait rien dire et... laisser mourir les gens tranquillement. Du coup, ils ont lancé un observatoire du suicide en prison le 13 avril 2002 pour du coup donner des informations aux familles des détenus pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et aussi faire une cartographie, en fait recenser tous les morts qui se passent, parce qu'il y avait vraiment des zones d'ombre vis-à-vis du comptage de l'administration pénitentiaire. Et en fait, quand vous allez sur le site de banc public, vous vous rendez compte en fait que c'est un chiffre qui donne, mais qui n'est toujours pas le chiffre officiel. Et souvent, en fait, ils sont au courant des morts par les publications qu'il y a dans les médias, qui sont souvent des publications, soit parce que les médias sont au courant, soit parce que les syndicats de matons font des communiqués de presse pour se dédouaner de la mort de telle personne. Voilà. Alors, ils font du coup, si c'est assez intéressant quand même de savoir, c'est assez triste, mais du coup, ils font plusieurs conseils en fait pour que la procédure puisse aller plus loin. Et pour que les familles puissent défendre, et les familles, les amis puissent défendre les droits de la personne qu'ils auraient vu disparaître à l'intérieur des prisons. Et du coup, ils conseillent de porter plainte immédiatement contre X au commissariat. Chef d'accusation à minimum, non-assistance à personne en danger. Et après, le reste se définira au fur et à mesure des investigations. Contacter le procureur de la République avec son avocat et... ne pas hésiter aussi, bon après il y a d'autres conseils, mais surtout il dit ne pas hésiter du coup à faire des mobilisations pour que l'affaire ne tombe pas dans l'oubli. Ensuite, après, il conseille de prendre un avocat et de demander l'aide juridictionnelle pour être suivi par un avocat, quitte à changer après si celui-là ne vous correspond pas. Et puis du coup après, c'est après du coup... après le cadre juridique, le temps de s'occuper de votre proche disparu, de ses affaires. Et là, il y a encore une série d'articles, de conseils qu'ils donnent. Et aussi, ils font des références à des articles pour pouvoir se défendre face à une personne qui est morte. On rappelle en fait que la plupart du temps, l'administration pénitentiaire n'est pas punie. Que quand il y a mort suspecte et que les gens ont porté plainte contre X, et ben, il n'y a souvent pas de débouché. Et voilà, que si...
Et voilà. Que si jamais il y a des débouchés, ça va être comme ça au tribunal administratif, avec une condamnation de l'État à payer quelque chose aux familles, mais ça va être jamais les matons, ça va être jamais les directeurs de tôle qui vont être personnellement mis en cause, et leur responsabilité personnelle qui va être prouvée devant un tribunal en fait.
Ouais. Parce que là, c'est sûr que les personnes ne sont pas reconnues en tant qu'homicide volontaire, mais là, c'est du coup un dédommagement, c'est le tribunal administratif. Et il y a plusieurs classements, et du coup, il n'y a jamais reconnu faute personnelle d'un personnel de l'administration pénitentiaire. Du coup, ce qui fait que la mort n'est pas reconnue comme s'il y avait homicide volontaire pour meurtre dans la rue ou d'autres situations en dehors dans la vie quand on n'est pas enfermé. Et ben, on se met un petit morceau pour réfléchir tranquillement à tout ça et on continue après sur...
Le vendredi 19h à 20h et on va continuer en parlant des baumettes.
Et non, on va plutôt parler de l'Iran avant, puisqu'il y a une grande grève de la faim qui a commencé en Iran depuis 2 mois et dans qui touche cinq prisons dans le pays. Et en premier lieu, la prison de Kezel Essar, où 6 détenus politiques kurdes suivent une grève de la faim depuis le 4 novembre pour protester notamment contre leur peine de mort. À la mi-décembre, ils étaient déjà à 41 jours de grève de la faim. Ils étaient atteints de convulsions, de chutes de tension et tout ça. Et voilà, mais leur grève de la faim, ils sont 6 à l'avoir lancée. Et assez rapidement, ça a essaimé dans pas mal de prisons du pays. Et d'abord dans leur propre prison à Kezel Essar, où le 25 novembre, c'est un millier de prisonniers qui ont fait une grève de la faim pendant 10 jours. Pour soutenir leurs camarades. De même, dans une autre prison à Evin, c'est 4 détenus kurdes qui sont en grève illimitée de la faim pour protester contre les peines du tribunal de la révolution, du tribunal iranien. L'absence de soins médicaux, des conditions inhumaines en détention. Et enfin, à la prison de Marrageh, c'est 50 prisonniers qui sont en grève de la faim depuis début décembre. Et là, ils sont dans le quartier des jeunes et ils protestent aussi contre les conditions intolérables de détention, notamment l'absence de chauffage. Voilà, il y a d'autres prisonniers en grève de la faim, plus un par un dans d'autres prisons. Mais en ce moment, ça bouge pas mal du côté des tôles iraniennes. Et maintenant, on va pouvoir parler des baumettes.
Et du coup, ce que je disais en introduction, c'est que les baumettes, en 2012, il y avait eu un contrôleur général des prisons. Là, c'est une personne qui attend tous les lieux fermés. Du coup, les prisons, les centres de rétention, les hôpitaux psychiatriques, et qui vérifie comment ça se passe à l'intérieur, irait avec les droits de l'homme. Et ils font des comptes rendus où ils font des dossiers en montrant que ça va rarement avec les droits de l'homme. Et en 2012, ils avaient fait du coup un dossier sur le centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, qui expliquait l'insalubrité de la prison, comme c'est le cas dans beaucoup de vieilles prisons, comme c'était le cas à la prison de Perrache, et avec tout un argumentaire, parce que c'est leur rôle, avec des rats qui pullulent, le sol recouvert de détritus, des douches cassées, l'absence de cloison d'intimité dans les toilettes, carence d'eau potable, réseau électrique déficient, coursives et cellules inondées à chaque averse. Et ça avait fait un grand tollé parce qu'en fait ça avait été repris par les médias et aussi repris par la garde des Sceaux Christiane Taubira, qui s'était engagée à faire des travaux. Et puis aussi l'OIP à dire bah, c'est inadmissible ces conditions de détention, il ne faut plus que ces prisons elles existent, comme assez souvent quand ces trucs sont dénoncés. Et l'OIP, lui, quant à lui, avait engagé des procédures en justice afin que la dignité et la sécurité minimum des détenus soient garanties. Du coup, c'est le tribunal administratif de Marseille, le même qui a condamné tout à l'heure la paix et a donné des indemnités à la famille de Jean, bah là, le même a du coup condamné encore une fois l'administration pénitentiaire à la réhabilitation des locaux. Ensuite, après, il y avait eu des articles qui étaient sortis sur Rue 89 qui montraient que souvent c'était les prisonniers qui eux-mêmes devaient mettre à neuf leur prison, sous le régime qui est dénoncé aussi par les détenus, où ils sont sous-payés, etc. Là. Pour faire ces travaux. Mais là, un an plus tard, en fait, l'OIP, suite du coup quand même à une action légale qu'ils ont menée, s'est rendu compte qu'il n'y avait eu aucune réhabilitation qui avait été mise en place à la prison des Baumettes de Marseille, que les bâtiments étaient toujours en piteux état, que c'était dégueulasse, et que du coup, eux, ils reportent plainte pour obliger l'administration pénitentiaire et l'État à faire des travaux. Voilà. Du coup, c'est sûr que ça serait vraiment classe pour les détenus qui puissent avoir au moins leur peine au minimum dans des conditions sanitaires à peu près correctes. Après, on sait que la prison, par exemple, de Lyon-Corbat, qui a remplacé la prison de Perrache, est une des prisons dites modernes, le nouveau modèle en fait que l'État construit, mais qui est toujours insuffisante par rapport au fait que les personnes, elles sont privées de leur liberté, elles sont enfermées entre quatre murs, elles sont sous le joug de l'administration pénitentiaire, et que du coup une prison retapée ou une prison moderne reste toujours une prison. Et voilà pour les Baumettes.
Et maintenant on va reparler un peu des mutineries de cet été à Châteaudun notamment, parce qu'il y a eu quelques détenus qui se sont soulevés dans trois prisons en France, à Bourg-en-Bresse, Châteaudun et une troisième, je ne me rappelle plus.
Et à Blois, parce qu'il y avait un détenu qui était mort dans la prison de Blois, du coup ils avaient bloqué la promenade pour dénoncer en fait le fait qu'ils avaient les boules, quoi. Leur pote était mort dans la tôle et puis l'administration pénitentiaire avait rien fait. Là après c'était à Châteaudun et du coup c'est l'Envolée en fait qui est un journal anticarcéral qui diffuse des lettres de prisonniers et de prisonnières, qui vient du coup en sortir fin décembre et qui revient sur cette affaire en expliquant en fait le procès qu'on vous avait expliqué aussi en septembre. Et aussi, on vous avait lu après une lettre d'Herbert, qui était un des détenus qui avait été jugé comme mutin, transféré, avait eu une peine lourde. Et du coup, là, c'était, on tenait en fait à lire l'interview en fait d'un prisonnier, ce qu'il avait vu de la fenêtre, voilà, pour un peu continuer à soutenir un peu ces mutins dans ce qu'ils ont fait dans la prison, et puis dire qu'ils avaient des bonnes raisons en fait de se révolter, qu'ils ont bloqué la promenade pour des raisons et qu'ils se sont fait tabasser pour parce que voilà, c'est l'ordre de la prison. Et du coup, lui, ce prisonnier qui témoigne sous X, était aux fenêtres et allumait créait des incendies pour soutenir ceux de la cour. Et comme il a été libéré, on a pu avoir l'envolé a pu avoir une interview de lui. Alors du coup, je me suis fait connaître trop tard pour pouvoir témoigner. Par contre, ce que je peux démontrer d'un point de vue local et avec toute la presse et les avocats, c'est le non-respect des droits au CD de Châteaudun. Du coup, j'étais incarcérée au moment de la mutinerie. Et c'est parti à cause du non-respect des droits. Tous les détenus en ont marre. Au CD de Châteaudun, au centre de détention de Châteaudun, on ne respecte même pas les droits de permission de sortie, d'aménagement de peine. On est sous-payé. J'ai été auxiliaire de maintenance en tant que peintre, payé par l'administration pénitentiaire normalement. Là, c'est une société privée qui me paye. Et elle me paye en dessous du taux légal. Au lieu de 160 euros, j'ai touché que 130 euros par mois pour 131 heures. Et il me manque 140 euros. Soit presque un mois de salaire. Moi, j'ai pas vu de perme de sortie alors que j'ai eu aucun rapport disciplinaire, aucun avertissement. J'en ai demandé une et ça m'a été refusé. Pourquoi ? Manquement de versement volontaire aux parties civiles. C'est la cause officielle. Donc ça veut dire que si je ne paye pas les parties civiles, je ne peux pas sortir. Et pour moi, ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Je ne dois pas 20 000 ou 30 000 euros. Là, il me reste 60 euros à payer aux parties civiles sur un total de 800. En plus, à ce moment, j'étais dans les délais légaux fournis par ma conseillère d'insertion et de probation, CIP, pour demander ma permission. Et puis, le manque de règlement intérieur. Il n'y en a pas. C'est libre cours. C'est même pas le droit, c'est la dictature. Même la dictature, je suis sûre qu'elle est plus clémente.
Après, il continue. On lui demande s'il avait participé au mouvement. Non, j'ai assisté. J'étais à ma fenêtre au premier plan. J'ai tout vu. J'ai vu l'équipe d'Eris. À la base, 4 détenus sur un toit. Les mecs, à la fin, ils étaient assis, ils attendaient. Ils savaient que tôt ou tard, ils redescendraient obligatoirement. L'intervention s'est passée en force. Il y a même un détenu qui était à plat ventre, les mains derrière la tête. Il se rendait, et bien même lui, il a été matraqué. Les Eris, l'avantage, c'est qu'ils ont une cagoule, donc on ne peut pas les reconnaître. Et là, pour les surveillants, c'est le défouloir. Après, on lui demande, c'est pour ça que d'autres prisonniers ont décidé de se mutiner le lendemain. La réaction de la pénitentiaire n'était pas appropriée à l'action de départ. 4 détenus sur un toit, ça ne va pas chercher bien loin. Bon, d'accord, il y avait nous à la fenêtre. Je ne dis pas qu'on criait victoire, mais on encourageait. Il n'y avait pas non plus menace de maintien de l'ordre ou autre. Tout le monde était dans sa cellule, on ne pouvait pas bouger, et pour 4 détenus, ils font venir une centaine d'Eris. Ça fait un peu beaucoup quand même, c'est de la disproportion.
Et Châteaudun, on n'appelle pas ça Châteaudun, mais Châteaudingue quand on est détenu. Pas de perme pour manquement de versement volontaire. Sur 130 euros par mois, vous voulez que je règle quoi aux parties civiles ? C'est pas de la mauvaise foi, mais entre la télé à 20 euros, le frigo à 10 euros, à la fin de mois, il me reste quoi ? 25 euros par semaine. J'ai quoi pour 25 euros ? 3 paquets de tabac, 3 paquets de feuilles et un briquet. Je ne peux même pas continuer à manger et on me demande de verser aux parties civiles. Ce n'est pas pour rien que j'ai perdu en 10 mois 10 kilos. Examen médical à l'appui. La bouffe de la gamelle est dégueulasse et pas proportionnelle. Pour se caler l'estomac, on nous file une baguette. Quelqu'un qui travaille à l'atelier ou qui épluche des oignons toute la journée qui fait ses 35 heures, il a quoi le soir à manger ? 3 bouts de viande. Et pourtant, il y a des nutritionnistes qui élaborent le menu. Je ne pouvais pas continuer, donc j'ai mangé la gamelle.
Après, on lui parle des muisineries à Blois et Bourg-en-Bresse et il répond « Je ne connais pas les raisons de Blois. Je connais les raisons de Blois, pardon. Non-respect des droits. Par exemple, ma CIP, je lui ai demandé ma première perme. Et pour ça, ils ont fait une enquête d'hébergement. Je lui demande « Alors, où en est l'enquête ?» Elle me dit que seule la JAP peut la relancer. J'écris à la JAP qui me répond qu'aucune enquête d'hébergement n'a été demandée. Bref, comme l'enquête n'est pas faite, toutes mes demandes de perme, ne serait-ce que pour un petit week-end, m'ont été refusées. Et ma CIP a été mutée à Blois peu de temps avant la mutinerie. Ensuite, on lui demande plutôt à propos de. Du coup, on lui pose. Taubira raconte qu'elle va tout remettre au clair et remettre des SPIP. Tu y crois, toi? Et lui, il répond. Ouais, alors à Châteaudun, c'est une société privée qui gère la tôle. On devait payer la télé 8 euros et on la paye 18. L'État devait payer les 10, manquant à la société privée. Alors je la vois bien, Taubira, à la télé. Le matin, elle dit qu'elle n'a pas de thunes pour payer ça. C'est 4 millions d'euros pour tous les détenus. Par contre, le soir, elle annonce devant le Conseil supérieur de la magistrature et toute la panoplie une hausse du budget de 86 millions d'euros pour dégeler les salaires des fonctionnaires, des surveillants, des juges, de tous les membres du ministère de la Justice. Et ça, c'est le plus chiant. Elle a pas les 4 le matin, mais elle a les 86 le soir. Et puis elle va mettre 25 conseillers d'insertion et de probation. La direction de l'administration pénitentiaire fait une politique du chiffre. Et il rajoute, c'est au sein du ministère de la Justice qu'on respecte le moins la loi. Voilà pour le témoignage de cette personne qui a assisté aux mutineries de Châteaudun depuis sa fenêtre de cellule.
Et maintenant, on continue avec du coup la lettre que l'envolé, la lettre d'Herbert que l'envolé a mis dans leur journal. On a envie de lire en fait des paroles de prisonniers, ce qu'ils ont très peu la parole. On voit dans les médias qu'à chaque fois quand il y a quelque chose qui se passe en prison, c'est ce que raconte l'administration pénitentiaire. Du coup, c'est pour appuyer ces paroles, et aussi c'est pour, si vous nous écoutez dans les prisons, pour vous donner envie aussi peut-être d'écrire et de réagir à ce qui se passe dans cette émission. Et là, du coup, Herbert, il avait écrit une lettre le 28 septembre 2013. Et là, c'est le 4 novembre 2013 à la prison de Bois d'Arcy en banlieue parisienne, où il a été transféré suite à la mutinerie de Châteaudun. Heureux de vous retrouver. En ce qui me concerne, c'est toujours la même routine. Isolement, gamberge, colère. Rien de nouveau à signaler. Le moral et la santé sont toujours à mes côtés. Je suis toujours à l'isolement, ce qui risque peut-être encore de durer. Chaque jour ici est un éternel recommencement, un combat mental, une maîtrise de soi pour éviter de se voir à nouveau exploser. Ici, c'est la même musique. Mon quotidien ne change pas. Le sport et la lecture font partie des journées, avec en moi une forte impression de naviguer en eau trouble, seule face au récif. Là, il est 3h07 du matin. Impossible de roupiller. Plein de choses dans la tête. Et pour éviter que mon crâne n'explose, j'ai trouvé bon de vous écrire et vous faire un signe de vie. Car c'est un véritable cimetière vivant, un mouroir où les prisonniers les plus fragiles choisissent le suicide pour un abandon. J'ai l'impression d'être un pion sur un échiquier à leur merci. Tant qu'on est à l'intérieur, pas de remède, pas d'autre choix que de rester dans l'observation, le silence et d'attendre. En attendant, je ne perds pas espoir. J'ai encore beaucoup à faire, et pour me maintenir ou pour imposer mes nerfs, j'évacue et me défoule dans le sport. Je lève des poids et j'agresse chaque jour le sol en faisant des pompes pour trouver le sommeil. Je me suis interdit leur soi-disant promenade depuis 2 mois, car je ne me vois plus seule dans une petite cage avec un grillage, des barbelés sur la tête pendant 2 heures comme un animal. Ici, tu dépends toujours de la paix. Tout ce que tu demandes ou souhaites doit avoir une autorisation du chef-major, lieutenant ou directrice. Tout mouvement doit être fait en présence d'un gradé, que ce soit pour la douche, la cabine ou la salle de muscu. Ce sont des conditions de survie que j'ai du mal à accepter. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on est obligé de subir la répression. Je suis quelqu'un à fort caractère qui n'aime pas se faire remarquer gratuitement. J'aime pas me plaindre à ces gens, j'ai horreur de montrer des faiblesses. Et pour éviter tout contact ou prise de confiance de leur part, je ne demande rien, je ne me plains pas et j'observe tout en gardant mon calme. C'est vrai qu'il y a quelques surveillants corrects. Mais bon, ce n'est pas pour autant qu'on va taper la causette, chacun reste à sa place. Car je ne suis pas en quête d'amitié et c'est mieux comme ça. Ce qu'il y a de plus important et de plus précieux pour moi ici, c'est d'avoir et de recevoir des nouvelles de ma famille, de ma fille et de ceux qui me soutiennent. Le reste, rien à foutre. Merci pour le courrier et pour ma part, je continue à me durcir derrière ces barreaux d'acier. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'arrangement. Le combat continue, à bientôt. Herbert.
Et on s'écoute une petite musique après ça.
Un vaisseau glisse sur les flots noirs. Les uniformes de sa majesté sont illusoires. Les vagues se brisent sur la jetée. Rejetés au large seront les corps des sbires de l'anti-liberté. La piraterie est le symbole d'un monde uni. Démocratie, antisexisme, antiracisme et pas de pays. Je suis l'héritière de marées rides. Pierre par pierre on démontra les monuments et les prisons érigés par le patriarcat. La rage des femmes ne prend pas de rides. Quand les porcs ont tous les droits sur les trottoirs, notre vengeance sera glaciale et exutoire. Les milliers de viols, d'humiliations, de genoux au sol et d'injonctions seront unis sous la lune noire. Et dans un siècle, peut-être nos enfants seront unis sous le drapeau noir. Ça fait quatre siècles que les amants de l'utopie inondent les ponts des navires de leur sang mêlé. En silence sous la lune noire.
Ici le pavillon noir.
Que résonnent les cris des pogroms.
Ici le pavillon noir.
Que résonnent les cris des indiens.
Ici le pavillon noir.
Que résonnent les cris du peuple rom.
Ici le pavillon noir. Ici le pavillon noir.
Que résonnent les cris des violés.
Ici le pavillon noir.
Que résonnent les cris des pendus.
Ici le pavillon noir.
Qu'il soit vengeance puis liberté.
Ici le pavillon noir.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 FM et c'est les infos du vendredi soir. Maintenant, on va s'en aller loin, mais on va rester en prison parce que c'est le Canu Info anticarcéral et on va voir aux États-Unis ce qui se passe en Alabama où il y a un mouvement de prisonniers depuis le 1er janvier qui est nommé Free Alabama Movement, le mouvement liberté pour l'Alabama. Dans au moins 3, 4, 5 prisons d'Alabama, il y a des grèves qui ont démarré le 1er janvier, d'abord dans la tôle de Saint-Clair et dans celle de Atmore. Puis elles ont été rejointes par celles de Springville, Donelson et Elmore ce week-end. Tous ces prisonniers qui sont en grève, du coup, se réclament de pouvoir être payés pour le travail qu'ils font en prison, c'est-à-dire les cuisines, la lessive, la maintenance, tout ça, le jardinage. Parce qu'ils sont très peu payés, souvent ils ne sont pas du tout payés, mais quand ils le sont, c'est 35 à 50 centimes de dollars de l'heure. Alors c'est vraiment que dalle. Vraiment encore moins qu'ici, c'est ouf quoi. Et c'est des systèmes de prison qui sont privés, où du coup en plus, les boîtes se font des thunes sur eux. Ils demandent entre autres aussi l'amélioration de la nourriture, parce qu'elle est complètement immangeable. Il demande l'arrêt de la surpopulation carcérale qui entraîne l'aménagement sommaire d'immenses dortoirs qui offrent aucune intimité aux détenus. Ces détenus de l'Alabama demandent aussi la refonte du système de libération conditionnelle et l'amélioration des conditions de détention en général, parce que par exemple ils arrivent avec des couverts qui sont dégueulasses en début de repas, ou par exemple il y a des oiseaux qui chient dans le réfectoire et ils trouvent ça juste total incorrect. Pour appuyer leur mouvement, les détenus se sont mis en grève et plus aucun travail n'est assuré, que ce soit pour les entreprises extérieures ou pour l'administration pénitentiaire directement. Et vous pourrez aller voir, il y a plein de vidéos qui ont été postées sur YouTube, nommées Free Alabama Movement, avec des dollars qui témoignent et qui portent leurs revendications. Voilà pour ce qui se passe aux États-Unis. Et maintenant, on va se balader un peu partout avec les traditionnelles brèves de détention. Ces brèves qui sont là pour montrer que partout en France et ailleurs, il y a plein de révoltes dans les prisons, dans les centres de rétention, dans les prisons pour mineurs. Parce que l'enfermement, c'est pas supportable. Parce que, en fait, il y a des gens qui se battent. Des fois, c'est des mouvements collectifs, des fois, c'est des mouvements individuels. Et on va se faire un plaisir de vous les relayer.
Mi-décembre, les détenus de la prison d'Abidjan en Côte d'Ivoire ont fait une grève de la faim. Ils protestent contre la sous-alimentation et les carences alimentaires dans la tôle qui ont tué plusieurs d'entre eux.
Colère dans la tôle de Lannemezan. Début décembre, un détenu a envoyé un bol de pisse sur deux matons. Une semaine plus tard, il a tenté de planter un stylo dans la carotide d'un autre surveillant. L'administration ne communique pas sur les raisons de cette colère.
Le 16 décembre, une vingtaine de détenus ont refusé de remonter en cellule dans la tôle de Condé-sur-Sarthe. L'administration pénitentiaire ne précise pas pourquoi.
Le lendemain, 17, une détenue de la tôle de Fleury-Mérogis en région parisienne a blessé deux matones. Elle a griffé le visage et tenté d'étrangler la première. Quant à la seconde surveillante, elle s'est luxé les doigts, sûrement à force de taper sur la détenue. L'administration ne communique pas sur les raisons de la révolte de la détenue, comme d'habitude.
Le 17 décembre, les flics ont fait un contrôle inopiné au parloir de la prison de Châlons en Champagne. Quatre personnes se sont fait choper avec du shit.
Et le lendemain, un maton s'est pris un coup au visage de la part d'un détenu de la tôle de Pleumeur, en Bretagne. L'administration ne communique pas sur les raisons de la colère du détenu non plus.
Samedi 21 décembre, 9 migrants enfermés dans le centre de rétention de Ponte Galeria en Italie se sont cousus les lèvres. Ils sont en même temps entrés en grève de la faim. Tous protestent contre leur enfermement.
Avant Noël, c'était un temps maussade dans les parloirs, décidément, parce que le lendemain, c'était à la tôle de Rouen où deux personnes se sont fait choper avec du shit.
Un détenu a été retrouvé mort dans sa cellule le 24 décembre au matin dans la prison de Châlons en Champagne. La tôle ne s'arrête jamais de tuer, surtout pendant la période des fêtes.
Le 24 aussi, un homme s'est déguisé en Père Noël pour envoyer des colis au-dessus du mur d'enceinte de la prison de Bourg-en-Bresse. Et il a recommencé le 31 décembre.
Oh yeah!
Le 30 décembre, un détenu était en train de récupérer un colis projeté au-dessus du mur d'enceinte de la tôle de Nice. Des matons ont voulu lui voler le colis et il s'est bien défendu. Il a mordu au sang un stagiaire maton de 40 ans qui apprend à ses dépens son métier dégueulasse.
Le même jour, 30 décembre, dans la tôle de Condé-sur-Sarthe, qui est une toute nouvelle prison, ouverte au printemps dernier, deux détenus ont pris en otage un maton pendant plusieurs heures dans une salle d'activité. Ils réclamaient leur transfert, mais on ne sait pas s'il a été accepté. Ils ont aussi remis à l'administration une liste noire de matons qui maltraitent les détenus.
Une semaine plus tard, dans cette même tôle, c'est au chef maton qui appartenait justement à cette liste noire qui a subi des représailles. Il s'est pris plusieurs coups de poinçon dans la cuisse, à l'épaule et sur les côtes. Décidément, la colère monte à Condé-sur-Sarthe. Prison ultra sécurisée ouverte ce printemps. Pardon, c'est le Condé-sur-Sarthe qui est.
Ouais, c'est un peu.
un peu étrange.
Je couvrais une tôle qui s'appelle Condé, c'est pas mal. Le 2 janvier, ensuite, une personne a dégradé des voitures près de la tôle de Tarbes, puis a commencé à dégrader la porte de cette même tôle. Difficile de savoir pourquoi dans les médias, mais elle a été interpellée par les flics.
Le 2, toujours dans la tôle d'Uzerche en Corrèze, un détenu s'est rebellé contre une fouille au corps et a frappé plusieurs fois le maton.
Les mineurs enfermés dans la prison de Lavore ont mis la misère au maton à l'occasion du passage à la nouvelle année. Avec un bon combo, puisque le 30 décembre, un détenu a tenté d'étrangler un maton. Le 31 décembre, un jeune a frappé deux matons, fracturant un nez. Et le 2 janvier, c'est un autre maton qui s'est pris des coups.
Le 3 janvier, les matons ont annoncé à un détenu de Saint-Quentin-Falavier, près de Lyon, et vous, normalement vous nous écoutez... que son parloir a été supprimé. Pas de chance pour les matons, ils se sont pris de violents coups au visage et ont été tous mis hors d'état de nuire pendant 3 à 4 jours. Ben, ça renverse la chose, quoi.
Le lendemain, c'est dans la tôle de Nottingham, en Grande-Bretagne, 3 détenus ont frappé un gardien et se sont emparés des clés des cellules.
Et Nottingham, en plus, c'est là où il y a Robin des Bois.
Ouais, c'est Robin des Bois. Bah, on ne sait pas ce qui s'est passé une fois qu'ils avaient les clés des cellules, malheureusement, mais on espère qu'ils sont bien amusés.
Le 7 janvier, dans l'après-midi, un détenu a pris en otage la directrice adjointe de la maison d'arrêt des Baumettes, près de Marseille. Armé d'une barre de fer, il réclamait son transfert dans la prison de Tarascon. On ne sait pas si sa demande a été acceptée, mais il s'est rendu au bout de quelques heures.
Le même jour, le 7, un colis a fait le grand saut au-dessus du mur d'enceinte de la prison de Perpignan. Malheureusement, les matons ont mis la main dessus. Il contenait un pistolet, des cartouches et une machette. De quoi gérer une chouette évasion, mais ça a loupé un peu tôt.
Toujours le 7 janvier, oui, toujours le 7 janvier, mais dans la tôle de Bapaume. Pardon, j'ai des fois des problèmes avec le B et le P. Cette fois, un détenu enfermé au mitard a mis une droite à un maton.
Et le 7 encore, une cinquantaine de détenus ont refusé de remonter en cellule après la promenade dans la maison centrale de Moulin-Isère. Ils réclamaient, entre autres, de meilleures conditions de détention et l'application des aménagements de peine.
Le même jour, décidément, un détenu a frappé un maton dans la tôle de La Roche-sur-Yon. L'administration ne dit pas les raisons de la colère du détenu. Tout ce qu'on sait, c'est que la suroccupation atteint 240% dans cette prison.
Ce matin, c'est 3 matons qui ont refusé sa promenade à un détenu de la prison des Croisettes à Coulaines. En Normandie, le détenu avait pourtant droit à sa promenade et il l'a fait savoir au maton, il en a mordu un à la main, a fracturé le nez d'un deuxième et a abîmé le dos du troisième.
Et on revient sur la tôle de Condé-sur-Sarthe. Les révoltes ne cessent pas. Hier après-midi, un détenu a frappé encore un maton. Et ce matin, c'est même le directeur adjoint de la détention qui s'est pris des coups de pique dans la tête et dans le dos par un détenu qui refusait la fouille de sa cellule.
Voilà pour les brèves de détention. On va maintenant passer aux brèves d'évasion. Oh, en même temps, on peut se mettre un petit morceau peut-être avant les brèves d'évasion. Allez, ouais, un petit morceau.
شخوم كلاسي وباش نزيد نحيي لك هاشي ريد باري ولا حيودني سمع النغمة راك تكون داري لا هضرة مغربية سمع كلام باطي زمر معي زاوية غادي تخليك ساهي سمعني كلاسي يا جماعة تبقى مثالي مي تفهمش هي غادي تمشي مليسي لا مازال مكسل والكلام واضح مع الفلو لا بغيت نجربها وخليها ديما شهر غادي ديك الشالي هكا اش كاين بلا فرق كيما هكا Qui débarque à nouveau, qui te braque avec grâce, une classe pour remettre la barre plus haut. Lève tes bras, devine qui débarque dans ta ville et qui t'embarque sans demander ton avis. Et ça va se faire. Devine, c'est les mêmes qui reviennent, ceux qui mettent leur barre pas à part pour reprendre leur taille. Tu t'en parles du mic, mec. واش فيها لاش تحديه غتخسر شي حاجة حرام فاش ليح بانا هنا ايوا انا مور ليكم تسمع مور في طوا بليزير بلا ما تعقد هاد الامور ما باينة صافي بليزير كلشي مور بقيتي خين تا بوحدك تعقد شد هاك خود خوك انا هذا تنزبل كنوز خلا وجدودنا لينا وليكم اللي بحث فيه حتى عيني فون خير صغور وحنا الاول اثنين غادي دوز نغمة العيساوية مازال تصير وغان كتاب ونزيد دور ودايم الله يا ناس حياتي ديما عليه معول وما تبقاش دور امو تزيد دور شوف خوك انا في ديور يا جماع كلاب ريتا سيد انسان بيتي عاش كاين جو بيض ما يساوي يا بجدور عروق فرنسيا ونحن يا مغرب يا الوادين كلشي يقول الوادين الكل مغربة عاش كاين بيتا ما يساوي حبة راها ميضة نور نزلوها نور
Et vous êtes toujours dans le Canu Info Anticarcéral du vendredi, une semaine sur deux. Et maintenant, on va passer aux brèves d'évasion. Les brèves d'évasion, parce que nous, on trouve ça important de faire un point là-dessus, pour montrer aussi que, quelle que soit la hauteur des murs, eh ben, y a toujours des petits malins, des petites malines qui arrivent à contourner le système et que les murs ne sont pas si infranchissables qu'ils essayent de nous le faire croire.
Et ça commence le
11 décembre. 20 détenus se sont évadés du tribunal d'Abidjan en Côte d'Ivoire, tous ensemble, au moment du changement d'escorte. Quelques jours plus tard, 7 avaient été retrouvés par les flics, mais la majorité des évadés court toujours.
Et le 13, c'était un détenu du Havre qui n'est pas rentré de permission. Il s'est barré dans le nord pour voir sa famille, mais pas de chance, les flics l'ont arrêté 4 jours plus tard et l'ont ramené en tôle. Plus près de Lille, cette deuxième tôle, alors c'est peut-être pas plus malheureux pour lui.
Le même jour, dans la prison de El Adela, près de Bagdad, en Irak, 22 détenus ont désarmé des matons et se sont évadés. Les flics en ont repris 13 et tué un dans la ville, mais les autres courent toujours.
Et le 16 décembre, à Quito, en Équateur, 55 détenus se sont évadés d'un seul coup. Il y aurait eu des complicités avec les matons. En effet, seulement 15 des 24 gardiens avaient pris leur poste ce jour-là. Quant au reste, on ne sait pas comment les évadés ont réussi leur coup.
Ben voilà, une bonne reconversion pour les matons.
Ouais.
La maison d'arrêt de Perpignan avait des allures de gruyère quelques jours avant Noël. Dans une cellule de 8 détenus, un tunnel a été creusé à travers le mur en direction du mur d'enceinte de la tôle. Ils se sont relayés pour creuser pendant plusieurs jours avec une cuillère et l'équerre qui soutient le lavabo, bouchant le trou avec du PQ et le cachant avec une serviette. Malheureusement, ils ont été trahis par les gravats qui encombraient la poubelle de la cellule. Dans le même temps, une autre cellule de 6 détenus subissait le même sort, mais par le plafond cette fois. Après avoir dévissé une plaque métallique au plafond, ils ont commencé à creuser, mais se sont fait serrer aussi.
Mardi 17 décembre, on s'en va au Maroc, à la frontière avec l'Espagne, parce qu'environ un millier de migrants ont tenté de franchir la frontière entre le territoire marocain et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, simultanément. Malheureusement, les caméras thermiques ont fait leur sale boulot de repérage et les flics marocains ont repoussé les migrants avant qu'ils n'atteignent les barbelés qui entourent le territoire espagnol. Les migrants ont remis ça 4 jours plus tard, le vendredi 20. 400 ont tenté d'escalader simultanément la frontière entre le territoire marocain et l'enclave espagnole de Ceuta. Malheureusement, personne n'a réussi et les flics marocains ont arrêté 200 migrants.
Le 21 décembre, un heureux problème de porte a présenté une belle occasion à un détenu. C'est parce que c'était Noël, c'est pour ça que c'est heureux. Transféré à la tôle de Nivelles en Belgique, il s'est vite rendu compte que la porte de la tôle était bloquée en position ouverte. Il a donc pris ses jambes à son cou et s'est barré, mais a vite été rattrapé. Ah, il est gentil, Père Noël, il fait des beaux cadeaux.
Le 25 décembre, un détenu de la prison du Port à La Réunion n'est pas rentré dans la tôle à la fin de sa permission. Il a peut-être voulu enchaîner Noël et le jour de l'an dehors, mais il s'est ravisé en cours de route. 2 jours plus tard, il se rendait de lui-même à la tôle.
Le même jour, un détenu a tenté de s'évader de la prison de Bullock en Géorgie, aux États-Unis. Une complice a découpé le grillage de la tôle et a brisé la fenêtre de la cellule pour permettre au détenu de se faire la malle, mais les matons l'ont repéré trop tôt.
Le 30 décembre, juste avant la fin de l'année, dans la prison de Pointe-Noire au Congo-Kinshasa, les détenus ont tenté de s'évader. Après avoir fabriqué des armes artisanales avec des boîtes de conserve, des bouts de bois et des bouts de fer, ils ont pris en otage un maton. Mais les flics arrivés sur les lieux les ont empêchés de se faire la belle. Alors voilà, une prochaine fois.
Le dernier jour de l'année a été mouvementé dans la tôle de Toulon. À midi, un détenu a mis le feu à sa cellule et 2 heures plus tard, en promenade, un autre tente de s'évader en escaladant le grillage. Malheureusement, il a été rattrapé très vite.
Le 4, c'est un détenu de la tôle de Phuket, en Thaïlande, qui a tenté de se faire la malle. Il a escaladé le mur d'enceinte surmonté de barbelés, mais s'est fait électrocuter par des fils tendus au-dessus, malheureusement. Resté suspendu pendant de longues minutes, coincé dans les barbelés, il a fini par être secouru. Après un séjour à l'hôpital, il a été ramené en prison.
Et le 5 janvier, un détenu a réussi à s'évader de la tôle de Blackburn dans le Kentucky. Mais il faisait vraiment trop froid ces derniers jours aux États-Unis et il s'est rendu aux flics le lendemain.
Voilà pour les brèves d'évasion. Où qu'ils soient les personnes qui sont en ce moment en train de courir quelque part, on espère qu'elles cavalent bien et qu'elles ont la pêche. Sinon, pour les personnes qui restent à l'intérieur, et ben, on tient à vous rappeler que c'est possible d'écrire si vous voulez avoir des lettres qui passent dans cette émission. Pour écrire, il faut écrire à l'atelier d'écriture, 91 rue Montesquieu dans le 7e arrondissement à Lyon. Du coup, 91 rue Montesquieu, 69 007 Lyon. On remet tout ça dans le blog aussi pour les personnes qui peuvent avoir accès à Internet. Et on rappelle que mercredi, pas celui qui vient, mais celui d'après, du coup mercredi dans 15 jours, il va y avoir enregistrement de messages pour passer aux prisonniers, prisonnières de la tôle de Corba, de l'EPM de Mézieux, de la tôle de Saint-Quentin-Falavier et du centre de rétention de... Comment s'appelle Saint-Ex ? C'est plus Saint-Ex, c'est...
Si, c'est un texte. Avant, c'était Satolas.
Voilà, c'est ça. De Saint-Exupéry. Voilà. Du coup, ce sera de 19h15 à 20h pour enregistrer les messages. Et j'ai le numéro écrit quelque part, je ne sais plus
sinon
où il est.
Sinon, je peux vous le dire, c'est le 04 78 29 26 00 entre 19h15 et 20h, mercredi, pas celui-là, celui d'après. Et les messages seront diffusés le vendredi suivant.
Et le journal avec les reportages sur Châteaudun, c'est du coup le journal L'Envolé. Et on peut vous l'envoyer gratuitement. Dans la tôle, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et du coup, bah pareil, faudrait réussir à se le dire ou alors réussir à trouver les contacts du journal L'Envolé, si vous voulez, en leur écrivant. Du coup, à Paris, c'est 43 rue Stalingrad, 93 000 Montreuil. 93 100, pardon, Montreuil. Du coup, ou sur leur email, c'est contact@l'envolé.net. Voilà, et si vous les contactez, ils vous enverront un journal de L'Envolé pour en savoir plus, pour avoir des infos et se mettre en réseau avec d'autres prisonniers et prisonnières. On fait un petit agenda maintenant.
On finit avec l'agenda. Ouais. Avec simplement, il va y avoir une manif demain. Ah non, avant ça, il y a une soirée ce soir. À partir de maintenant, vous pouvez vous rendre à la Plume Noire sur les pentes de la Croix-Rousse. Ça doit être le 8 rue Diderot. C'est une projection de Looking for Eric. Looking for Eric, en fait, c'est un film français, je ne sais pas. Mais,
non, c'est un film anglais.
Anglais.
C'est Ken Loach. Ah, mais c'est ouais. Eric parce que c'est Eric Cantona.
Ah, un coup. Et c'est Looking for Eric Cantona en soutien
bien Cantona.
Sûr, au CGA de Lyon.
Merci. Mais il est super ce Cantona. Film. C'est, ouais. Que vous aimiez le foot ou pas, ça n'a pas vraiment rapport. Il est vraiment super.
Et il y a une manif demain, non?
Ouais. Et ouais, il y a une manif demain pour parler du droit à l'avortement en Espagne qui commence à être bafoué, que peut-être même ça deviendrait européen au bout d'un moment, du coup, pour lutter pour garder l'avortement libre et gratuit pour toutes et tous. Ben, pour toutes, surtout.
Et tous pour ceux qui veulent pas d'enfants. Ça arrange bien qu'il y ait l'avortement.
Ouais, c'est sûr. Et ben, en tout cas, ça se passera demain et c'est le rendez-vous est
14.
À...
14h30 devant la mairie de Villeurbanne, métro Gratte-Ciel.
Et si vous voulez plus d'infos, allez sur le site rebellion.info, voilà, pour voir un peu le communiqué et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça.
Voilà. Et, ben, voilà.
Et sinon, à la fin du mois, il y a un festival en commémoration à la Révolution égyptienne le 27 janvier 2013. Non, 2011. Ouh là là, j'y arrive plus. C'est la fin de l'émission, excusez-moi. Et voilà, c'est le festival, il s'appelle Révolutionnaire. Et il y aura des rappeurs, des interviews, des concerts, des films, plein d'autres choses. Du coup, restez à l'affût de Radio Canu. Il va sûrement y avoir d'autres émissions qui vont plus en parler pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et ben maintenant c'est Noise Pollution. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 FM et vous pouvez nous retrouver sur notre site radiocanu.fr et nous écouter aussi par notre site. Allez, ciao.
Ciao.
Ciao.